tous nos ovules de cocaïne dans un plat comme ça, un bol comme ça, et on les avale, soit avec du coca ou soit avec de l'eau. Mais moi, j'avais pris du coca. J'écoutais de la musique et je me disais, je le fais pour maman. Et je stressais pas du tout, pas du tout.
Tu fais pas des photos.
À 5 reprises, Nicolas, du haut de ses 17 ans, a tenté de passer de la drogue entre la Guyane et la métropole en ingérant des boulettes de cocaïne. Les policiers et les douaniers appellent cela faire la mule et ces petites mains du trafic sont surnommées les bouletteux. Mais derrière ces mots qui ne rendent pas compte de la dose de désespoir qu'il faut ressentir pour se lancer dans pareille aventure, il y a un phénomène massif. Au premier semestre 2021, 241 passeurs de drogue ont été interpellés en Guyane et 627 kilos de cocaïne ont été saisis. Des chiffres en constante augmentation, sauf l'an dernier, à cause de la pandémie.
Sur un vol comme celui-ci, si le vol est plein avec 380 passagers, on est déjà arrivé à une estimation d'une trentaine de mules par vol, voilà, en période faste, on va dire.
La cocaïne ingérée ou transportée dans les valises ou même scotchée sur le corps des mules guyanaises provient principalement de Colombie, le premier producteur mondial. Puis elle transite par le Suriname, petit pays de 600 000 habitants. Entre le Suriname et la Guyane, il n'y a que le fleuve Maroni à traverser. C'est 10 minutes en pirogue. C'est donc très tentant pour les Guyanais de proposer leurs services. D'autant plus qu'en Guyane, le taux de chômage est de 20%. Et d'après l'INSEE, un Guyanais sur deux vit sous le seuil de pauvreté. Faire la mule, c'est la promesse de gagner quelques milliers d'euros, mais au péril de sa vie.
Quand on ingère entre 500 et 800 grammes, ce qui fait entre 50 et 100 boulettes. Quand il y a une rupture, 1,2 grammes provoque le décès.
En Guyane, passeur de drogue et vie brisée, c'est un reportage de Marie Monnier avec Laurent Macchetti à la prise de son.
Interception. Le magazine de reportage de la rédaction.
On est au bord du fleuve Maroni, sur les rives de la deuxième ville de Guyane qui porte son nom, Saint-Laurent-du-Maroni. Et juste en face, à peine 5-10 minutes de pirogue, il y a la ville d'Albina au Suriname. C'est là-bas que les trafiquants de drogue achètent la cocaïne pour moins de 5000 euros le kilo. C'est aussi là-bas que la majorité des passeurs de cocaïne sont accueillis, préparés, avant de revenir sur le sol français. C'est cette proximité avec le Suriname et cette frontière très poreuse qui font de Saint-Laurent-du-Maroni le point de départ d'un long voyage pour les passeurs de cocaïne et le terrain de recrutement privilégié pour les trafiquants de drogue. On va justement rencontrer Nicolas. Nicolas, c'est un prénom d'emprunt. Un jeune homme de 17 ans et demi qui, comme de nombreux jeunes ici, a essayé plusieurs fois de passer de la cocaïne entre la Guyane et la métropole. On a choisi de modifier sa voix pour préserver son identité.
Je ne vais pas vous dire mon prénom, mais je suis âgé de 17 ans et demi. Donc à 6 heures du mat, je reçois un message d'un gars qui me dit « j'ai un deal pour toi et tout ». Si t'es chaud, il insiste. En fait, il m'a percuté au bon moment, voilà. Après, quand il m'a rappelé, j'ai pas hésité. La personne avec qui je parlais sur Snap, c'est pas la personne qui est venue me chercher à la maison. Et c'était à 5h du mat. Et la personne que je suis allé rencontrer au Suriname, c'est pas la personne qui me parlait sur Snap et c'est pas la personne qui est venue me récupérer chez moi. J'ai pris les boulettes là-bas, les ovules de cocaïne, et puis... Mmh. Au Suriname.
Dans une maison, dans un hôtel ?
Hôtel, un appart, on va dire, c'est un appart, oui, un appart. Et il n'y avait pas que moi.
Vous étiez combien ?
On était six jeunes. On a tous nos ovules de cocaïne dans un plat comme ça, un bol comme ça, et on les avale, soit avec du coca ou soit avec de l'eau. Mais moi, j'avais pris du coca. J'écoutais de la musique et je me disais, je le fais pour maman. Et je stressais pas du tout, pas du tout. J'étais à l'aise. À l'aise, je prenais les ovules de cocaïne, j'avalais, je prenais du coca. Ça passait à l'aise. En fait, je me disais pas dans la tête, je vais tomber en faillite. Je me disais juste, je vais arriver. Je voulais faire ça rapide et vite fait. J'ai voulu faire comme mon grand frère, mais je l'ai pas bien fait, voilà.
Vous avez tenté le voyage plusieurs fois ?
Oui, j'ai essayé de faire ça 5 fois. De voyager avec la drogue dans mon ventre 5 fois. Mais je suis pas arrivé. Parce que je crois que j'ai essayé au mauvais moment. Mais si je l'avais fait plus tôt, avant le confinement et tout, j'allais déjà passer au moins 5 fois.
C'était quoi le mauvais moment ?
Parce que il y avait le confinement, c'est tout début du coronavirus. Et puis, il fallait avoir des vrais justificatifs pour passer. Pour franchir. En plus, j'étais avec des faux papiers. J'étais pas avec mes papiers à moi. Avec quelqu'un qui me ressemblait, mais c'était pas mes papiers. C'est juste que j'avais pas un bon alibi pour monter, pour prendre l'avion. Donc, en fait, sur mon truc, j'avais écrit que j'ai une famille décédée là-bas. Et j'avais pas de papier de décès, j'avais pas de justificatif de décès. Et j'ai pas pris l'avion. Mais sinon, j'étais dans l'avion. J'ai rappelé le taxi, il est venu me sortir de là. J'ai attendu à la maison, j'ai bu du lait et tout pour essayer de tout enlever. Et le matin, j'ai enlevé la moitié. Et vers l'après-midi, voilà, j'ai tout enlevé, je les ai lavés et puis j'ai appelé le propriétaire. Il est venu les chercher et puis on est quitte.
Il vous a rien dit d'autre ?
Non. Non, il m'a rien dit. C'est fini, c'est comme ça. C'est fini. C'est le deal, c'est fini. L'heure est passée.
La dernière fois que vous l'avez fait, c'était quand ?
Ça va faire 6 mois. Cette dernière fois, c'était des ovules de cocaïne de 8.
8 grammes ?
Ouais. Et j'en avais combien ? 80. Quand la dame a regardé les papiers, je voulais tellement la dire que je suis en galère, je suis obligé de prendre l'avion. Je sais que vous savez ce que je suis en train de faire, mais je dois prendre cet avion. Elle me dit, désolé, navré, vous n'allez pas prendre l'avion et tout. Je vois la dame prendre le téléphone. Elle tape un numéro. Je crois qu'elle appelle les douanes. Je lui ai dit, madame, ok, c'est bon. Je vais faire demi-tour. J'ai fait demi-tour dans la voiture. J'ai pleuré comme un enfant. Ce qui me tue, dans les 5e passages que j'avais fait là, j'étais chargé de munitions. J'allais, j'étais rempli. Donc je prenais des budgets à 10 000 euros. Je me suis dit, c'est pas juste. C'était pas de l'argent net, mais bon. Propre ou sale, c'est de l'argent.
Il y a donc eu cette dernière fois, il y a 6 mois. Depuis, est-ce que vous avez tenté de nouveau de passer de la cocaïne entre la Guyane et la métropole ou est-ce que c'est fini ?
Là, aujourd'hui, j'essaye d'avoir une vie stable. Quand je dis une vie stable, c'est-à-dire avoir un boulot. Je vais pas venir vous dire que, promis, juré, je vais plus le faire. Je sais pas. Je vous promets rien. Parce que pour l'instant, j'ai rien. Donc, mais moi, de mon côté, j'ai pas envie de le refaire. Mais j'espère ne plus revoir la daronne dans les galères. J'espère. Vous avez déjà vu votre mère? Elle pleure pour des sous parce qu'elle n'a pas assez de sous pour nourrir toute la famille. En gros, ici, on n'a pas trop le choix, nous, les jeunes qui n'ont rien. En fait, on prend un risque. On joue avec notre vie, voilà. Okay.
Donc là, on voit trois jeunes, tous mineurs à mon avis, hein, facilement, dans une chambre d'hôtel. En général, c'est les hôtels de la zone aéroportuaire. Alors, ils attendent pour rentrer. Bah, ils ont fait leurs courses, on voit les paires de chaussures, les fringues et tout ça, et puis ils sont contents. Les marques, le boutin, tout ça, voilà, ils sont contents. Et on voit aussi les billets. Pour eux, ils sont contents, ils friment, mais ça donne tout de même envie aux autres de partir des vidéos de ce type-là. Et ça, il y en a plein.
Alors, vous ne souhaitez pas qu'on donne votre identité. Ce qu'on peut dire, c'est que vous êtes enseignant, que vous vivez depuis un sacré bout de temps maintenant en Guyane. Et depuis de nombreuses années déjà, vous voyez disparaître pendant quelques jours, quelques semaines, certains de vos élèves.
On ne les voit plus en cours. Mais des fois, on se rend compte que la cause est ça. Depuis les vacances de Toussaint jusqu'à Noël, on sait qu'il y en aura beaucoup plus. On prépare Noël. Donc pour avoir de l'argent pour Noël, on voyage.
Et comment vous vous rendez compte ?
Au retour. Ils sont bien mieux habillés parce qu'ils s'en vantent aussi. Quand c'est réussi, c'est pas caché.
Est-ce que vous en parlez avec vos élèves du trafic de cocaïne, du fait de faire la mule ?
Oui, bien sûr, ça fait partie des sujets ordinaires. Je disais, ça m'est arrivé quand on utilise le mannequin, le corps humain, ce qu'on appelle un écorché, que eux-mêmes, spontanément, demandent où est la cocaïne, parce que bon, ils veulent bien voir où sont les intestins, donc on regarde le trajet. Certains, pour rigoler, disent aussi que leur projet professionnel, c'est ça. Hein. Donc c'est un sujet comme un autre, dans le sens banalité.
Et vous, face à ça, en tant qu'enseignant, qu'est-ce que vous dites ?
On est forcément contre. Mais on n'a pas beaucoup d'arguments de fond. À part que c'est pas bien, à part que c'est illégal, et éventuellement de la compassion pour les consommateurs outre-Atlantique. Mais ce ne sont pas des arguments qui dissuadent. Effectivement, il y en a qui se font prendre. Mais ce n'est pas assez efficace pour ne pas le faire. On est démunis.
Et ça, c'est une vidéo, par exemple, qui est partagé entre jeunes.
J'ai récupéré comme ça, donc elle est partagée en réseau fermé en général. C'est pour ça que je fais aussi très attention, parce que si elle est téléchargée, on sait qui l'a téléchargée et qui l'a sortie du groupe. Mais quand je dis qu'elles sont partagées, elles ne sont pas partagées à 50 ou à 100 personnes. Hein. C'est dans le petit groupe, là, les copains-copines savent qu'elle est partie et qu'elle est revenue. Et qu'elle est contente que ça ait bien marché. L'argument qui peut fonctionner le mieux, et encore, c'est quand on leur fait prendre conscience que ce sont les petites mains du système, c'est-à-dire que c'est eux qui courent le plus de risques, et ce sont eux qui en ramassent le moins. Un exercice que je fais, c'est que je leur demande 1000 ou 2000 ou 1500 euros, ça fait combien de billets de vin ? Et la plupart sont incapables de compter. Donc ils se font aussi avoir là-dessus. Certains affirment qu'ils ont touché 8000 ou 10 000 euros, mais bon, je voudrais bien savoir s'ils l'ont compté.
Vous, enseignant, qui connaissez ces élèves, qui les suivez même des années plus tard, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui ?
Du dépit, un énorme gâchis. Je pense qu'il y a de la colère aussi. Quand on a commencé, il y a une quinzaine d'années, à en parler, on était des vilains petits canards. On renvoyait une mauvaise image de la commune ou du département. Donc il ne fallait pas en parler. Quand on n'en parle pas, ça n'existe pas. Maintenant, tout le monde vient faire son reportage sur le phénomène des mules et de la cocaïne en Guyane française. Et donc, ceux qui ont adopté cette stratégie, j'espère qu'ils reconnaissent au moins qu'ils se sont trompés.
Le phénomène des mules ne concerne pas seulement les jeunes Guyanais. Les mules peuvent être des personnes âgées, en manque de ressources, ou des actifs qui ont un emploi mais pas assez de revenus.
Qu'est-ce que c'est que la vie est chère et qu'il faut baisser les prix ?
La pauvreté et la précarité dans le territoire sont à de tels niveaux que même des femmes enceintes ont tenté de passer de la drogue.
La cocaïne.
Manon Régard-Petit est directrice scientifique à l'agence de sciences sociales PHARE. Elle est l'auteur d'un rapport sur la prévention du phénomène des mules en Guyane.
On a du mal parfois à se rendre compte en métropole ce que ça signifie la précarité dans l'ouest guyanais en particulier. Mais on parle de zones d'habitat spontané, c'est des bidonvilles qui sont à perte de vue, c'est des habitats de tôle, c'est des zones d'habitat où il n'y a pas d'eau potable, où il n'y a pas d'électricité. Et donc c'est des personnes qui témoignent de situations de surendettement, de situations de logement qui sont totalement indécentes, c'est-à-dire sans toit, sans électricité, qui se disent bah, face à ça, quelle est ma solution ? Eh bien ma solution parfois, ça serait le trafic de cocaïne.
France Inter.
C'était pas de l'argent net, mais bon.
Interception.
Trois poux sales, c'est de l'argent.
Nous retrouvons Marie Monnier et Laurent Maquetti à Cayenne.
Vous savez, les belles.
Il parle français avec lui. C'est comme ça, non ?
Le jeune homme que l'on a interrogé à Saint-Laurent-du-Maroni et qui a tenté plusieurs fois de passer de la cocaïne nous a dit à la fin de notre entretien « La cocaïne, quand tu grandis dans la rue, elle est partout en Guyane, de Saint-Laurent-du-Maroni à Cayenne ». On a justement rendez-vous avec trois jeunes rappeurs qui sont en train d'enregistrer une nouvelle chanson dans un studio d'enregistrement. Et dans leur texte, ils racontent justement les galères et les tentations omniprésentes de tomber dans le trafic quand on grandit dans un quartier populaire.
Rien que sans un autre os, photo, on a mal la fosse. Fais-le les gars, pas te faire péter. Tous les gens rentrent sans nos sous. Efficace sur leur thé. La coco, il faut la monter. Même si les bleus sont pas d'accord, plus petit, il faut le monter.
Bonsoir, Marie, enchantée.
Marie, Tico.
Okay.
C'est Thierry Zepec, Tico, son prénom encore,
Claudric,
et ben moi, Bena Ndi.
Moi j'ai 18 ans, j'ai eu mes 18 ans le 11 avril, et voilà.
Moi je suis
19 ans. Ok, ok.
Moi j'ai 30 ans, 4 février.
J'ai 28 ans.
27 ans le 16 avril.
Il n'y a que des béliers.
C'est ça, béliers c'est peut-être dur. Hein.
Oui,
têtu même.
Fond, café quartier la crie au Bouddha et ribé Bouddha. Comme les mounes qui a passé la donne avec coca en Bouddha. Pendant bitch en main qui a bougé Banda. Moi, on pas la poule, on fait des bas. C'est un link-up et qui pleure au sol. À demain matin, la poule, on fait des gars. King.
Voilà. Zepec, dans ton entourage, tu connais combien de mules environ? Combien de personnes tu pourrais dire une... Donne-moi un chiffre de mules que tu connais.
Que je connais réellement plus d'une trentaine.
Plus d'une trentaine.
Et il y a déjà un du train, mes cousins sont. Ils ont leur peine là. C'est chaud là pour eux là.
Une quinzaine.
Qui font encore aujourd'hui le voyage ou qui l'ont fait?
Il
y a ceux qui le font et il y a d'autres qui ont arrêté parce qu'ils savent les conséquences. Il y a ceux qui ont eu des enfants et ils savent qu'ils veulent peut retomber dedans.
Moi je vous mens pas, hein. Simon. Là je vous parle honnêtement. Là, si j'étais pas sous contre-judiciaire là. Comme là, j'ai rien, là, comme là, c'est comme si je suis à zéro. J'ai envie d'avoir d'argent, j'ai envie de mettre ma mère bien. Et puis la seule solution qu'on a en Guyane, c'est soit on va braquer, soit voleur, ou soit tu vas faire la mule, tu vois.
La rue, c'est chaud, hein. Des fois, on est obligé de faire des choses qu'on aime, on n'a pas forcément envie de faire. Mais c'est pour la bonne cause. Parce qu'après, il y a de l'argent qui est en jeu, tout ça. Donc voilà, c'est ça.
Non, on n'a pas vraiment forcément le choix, mais il y a d'autres, ils ont grandi, on les a tout donné, il y a d'autres, non.
Tu peux arriver en France avec tes 1 kilo dans ta tête, te penser que tout va bien se passer, et quand tu arrives, tu sors d'Orly, il y a 4 costauds qui viennent, qui te montent en l'air, qui te mettent dans le coffre, et tu te fais kidnapper. Donc c'est pas. Il y a des gens qui ont disparu, il y a des gens qu'on n'a plus revus, il y a des gens qui ont. Ce sont des amis de la rue qui ils étaient là, ils sont interdits de territoire français, ils sont là-bas.
À force, une fois on le fait, c'est pour apporter pour sa famille, on le fait une fois. Une fois qu'on a vu gros, ça te tente et ça recommence. Et après c'est comme ça, soit on tombe, soit on meurt, ça dépend, c'est tellement chaud. Ça peut emmener des problèmes assez loin. Quoi.
Il y a des gens, ils ne savent pas ça, il y a des gens qui sont voués à tomber. Ça veut dire que eux, les grands, ils savent pas. Peut-être qu'il y a 2 kilos qui sont arrivés. Ils vont préparer une mule à 200 grammes. Elle pense sur les 200 grammes, elle va gagner 1000 euros, 2000 euros. Elle se dit, ah, moins de risque. Mais au final, c'est elle qu'on va contrôler, c'est elle qu'on va choper. Et tous les restes dans le même avion, ils passent.
Oui,
et ça, ils savent pas.
Il y a des gens sacrifiés, quoi.
Il y a des gens sacrifiés pour que les choses fonctionnent. Et personne n'est au courant. Si on connaît pas le jeu, on n'est pas au courant. Vous arrivez, votre petit frère, il veut faire ça, il arrive, on l'a déjà sacrifié avant même qu'il parte. Il est déjà condamné à faire 2 ans de prison, 1 an de prison en France et interdiction de territoire guyanais, juste parce qu'il a essayé. Dites-vous que sur un vol, il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup pour plusieurs personnes.
Est-ce que toi, t'as l'impression qu'on va pouvoir s'en sortir de tout ça ou
Tant qu'il y aura de la demande et que ça sera... C'est possible. Ça va jamais s'arrêter.
la Guyane, un département français d'Amérique, aux frontières du Brésil et du Suriname. Un territoire de 260 000 habitants en bordure de l'océan Atlantique. Derrière ces images de cartes postales se cache une réalité parfois moins attrayante. Ce territoire est le plus violent de notre pays. Chômage, misère, immigration illégale,
trafic. Depuis long time, où j'abaille aux distances, et tout en arrière, faut pas connaître ça, zéro tolérance, le temps des mots fleurs que j'ai traumatisé. Ça qui fait fête, mon pays ou fait encore, à la vie, à la mort, nous pas péguer remords. C'est être méchant à nous connaître, que doute, de pas qu'à faire au corps et ma qui bouche ici. Système a changé, ouais, tout le monde est physique. Au fond, aux zones, y'a qui t'es chaud. Depuis l'époque, moi toujours en bas bloqué, mon bloc à la main, nous pas là pour faire blague. Nous ça des voyous qui au fond tout business, méchant, méchant, tout mon ambition à travailler pour faire l'oseille. Dis matin au soir, milon en arrive, ouais, aussi ça
ouvre.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'embarquement du vol Air France 853 destination de Paris débutera dans quelques instants et se déroulera de la façon suivante.
On arrive à l'aéroport de Cayenne. Les taxis collectifs font descendre leurs voyageurs et attendent les suivants. Le parking n'est pas aussi plein que d'habitude, hors crise sanitaire, parce que même si les rotations quotidiennes entre la Guyane et la métropole ont repris, le pass sanitaire, l'obligation de se faire tester avant le départ et à l'arrivée, font que les vols ne sont pas forcément pleins. Mais il y a quand même une file d'attente. Dès le hall d'entrée, un groupe de douaniers pose des questions aux voyageurs avant qu'ils aillent enregistrer leurs bagages pour le vol vers Paris.
Où allez-vous ?
Je vais à Amsterdam.
Amsterdam. How long have you been here ?
I've been here for 4 months.
Depuis 4 ou 5 mois.
What is the reason? Pour quelle raison vous voyagez ?
Because today I can travel to go home.
C'est pour rentrer chez moi. Je suis venu ici pour voir ma grand-mère et mon compagnon.
How long did you stay? Combien de temps vous êtes resté ici ?
Ici ? Une semaine ?
Une semaine. En Guyane française ou au Suriname ?
Je suis resté ici, en Guyane, à peu près 4 mois.
Et où logiez-vous ?
Pardon ?
Où ?
Je ne connais pas l'adresse. J'étais chez ma belle-famille. Dans la famille de mon compagnon.
Ok, dans quelle ville ?
Le nom de la ville ? Je ne sais pas.
Non.
Vous avez un travail ?
À Amsterdam ?
Non.
Ah, j'avais un travail avant de venir en Guyane, mais comme je suis resté bloqué ici à cause de la pandémie, bah, ils m'ont licencié.
Et qui a payé votre billet ?
Ma mère.
Votre mère ? On va vérifier vos bagages.
Christophe Ducoli, je suis chef des services douaniers de la surveillance, à la brigade de surveillance extérieure de Cayenne Aéroport.
Là, nous sommes au niveau des départs à l'aéroport Félix Éboué et on voit des agents de la douane, des douaniers. Quel est leur rôle là dans cet aérogare ?
Contrôler les passagers qui viennent embarquer pour la destination de Orly et de voir si ces passagers ne transportent pas de marchandises interdites, prohibées, et particulièrement de la cocaïne. C'est toujours compliqué parce que, si vous voulez, c'est une mini-enquête qui se fait en temps réel, sur l'instant. C'est de faisceaux d'indices, beaucoup d'incohérences dans les propos des gens.
Exemple ?
Certaines personnes ne savent pas où elles vont, par exemple. Donc, quand on leur demande leur destination finale, Elles savent pas trop. Ça déjà c'est un premier signe fort. Quand on voyage et qu'on ne sait pas où on va, c'est qu'il y a un problème. Sur les motifs, souvent aussi, les gens ne savent pas trop pourquoi ils voyagent. Tout ça, une fois qu'on a fait un petit peu un topo sur la personne, rapidement, on voit s'il y a quelque chose qui cloche ou pas. Sur un vol comme celui-ci, si le vol est plein avec 380 passagers, on est déjà arrivé à une estimation d'une trentaine de mules par vol, voilà, en période faste, on va dire. Peut-être qu'avec le Covid, ce chiffre baisse, mais on est entre 10 et 20 mules par vol, à peu près.
C'est votre carte d'identité ? On va vérifier vos bagages. Rien de spécial à déclarer. Vous étiez chez votre grand-mère à Kourou et vous prenez le vol Air France, c'est ça ?
Voilà, ici on est dans la salle de contrôle. Donc on peut faire deux contrôles à la fois parce qu'il y a suffisamment d'espace. Donc les collègues vont principalement regarder le bagage de soute, toutes les affaires de la personne, voir si tout est conforme ou pas, s'il n'y a pas de la cocaïne cachée, que ce soit dans la valise en double fond ou dans le linge ou dans des paquets alimentaires. Enfin, toutes sortes de moyens cachés existent. Nous cherchons principalement des marchandises de fraude et ici, principalement de la cocaïne.
Et si là, par exemple, vous trouvez de la cocaïne au moment où on se parle, qu'est-ce qui se passe concrètement ?
Alors la personne, cette fois-ci, va être transportée dans une autre salle de contrôle avec une salle de procédure à côté. On va démonter toute la valise, on va regarder si il n'y a pas d'autres moyens cachés. Nous allons contrôler la personne aussi. Donc là, nous allons faire un test urinaire pour voir si la personne n'a pas ingéré. Nous allons lui poser la question aussi, savoir si elle n'a pas ingéré ou inséré de la cocaïne. Si c'est le cas, il faudra se déplacer à l'hôpital pour faire une radio de contrôle et puis pour attendre que la personne expulse en toute sécurité les boulettes qu'elle a ingérées. Et puis en même temps, nous faisons la procédure douanière. Donc il y a plusieurs PV qui composent la procédure de saisie de cocaïne.
Ça va vous prendre là le cheminement jusqu'à combien d'heures et combien de douaniers ?
À minima, je dirais que c'est 3 heures. Et au maximum, j'ai envie de dire, c'est nos limites. C'est-à-dire que si on va à l'hôpital et qu'on attend que la personne ait expulsé ses dernières boulettes, ça peut durer 24 heures, hein, voire plus. Et au niveau des douaniers, on est au minimum avec 3 douaniers. Donc en fait, au plus nous allons trouver des embûches sur notre chemin, au plus il va nous falloir de douaniers pour gérer la procédure qui deviendra complexe.
Autant de temps pendant lequel, si tant de douaniers sont mobilisés sur une personne, d'autres, évidemment, peuvent passer.
Bien sûr, tout à fait. Ça, malheureusement, nous n'y pouvons rien.
La Guyane, un département français d'Amérique, aux frontières du Brésil et du Suriname.
Là, on est en train d'arriver au centre hospitalier de Cayenne. Il y a un peu d'embouteillage. On y va pour comprendre justement comment les personnes qui ont ingéré des boulettes de cocaïne sont prises en charge.
Vous allez bien ? Bonjour.
Je suis le docteur Karim Anish, je suis médecin légiste et chef de service de médecine légale à l'hôpital de Cayenne depuis 2011. Donc, ils sont vus devant aux urgences de l'hôpital de Cayenne. Ils sont adressés à la radio, le service de radiologie, c'est ici. Et ensuite, tout dépend de la présence ou de l'absence de boulettes. En cas de présence de boulettes, la personne, elle est prise en charge sur le plan médical. Il y a un protocole, ce qu'on appelle protocole boulettes, qui est mis en place. Donc, de perfuser, de le mettre à jeun et de lui donner des médicaments, justement pour accélérer le transit, pour pouvoir éliminer et pour pouvoir extérioriser tous ces corps étrangers et notamment les boulettes qui sont au niveau abdominal.
La prise en charge, elle dure combien de temps ?
Tout dépend du nombre de boulettes ingérées. On parle de boulettes, on parle d'ovules aussi. Donc tout dépend du nombre. La durée moyenne de séjour est de 48 heures, 2 jours. La durée maximale, c'était une fois 17 jours.
On va aller dans mon bureau,
voilà, on pourra continuer la discussion tranquillement et je vous montrerai quelques clichés radiologiques et répondre à vos questions. Voilà. Là, je vous montre quelques clichés. Bon, celle-là, donc c'est une femme que j'ai vue il y a 3 semaines. Âgée de, je crois, de 30 ans, qui était venue avec les douaniers et qui me disait qu'elle n'avait rien pris. Regardez, ça c'est les seins.
Donc dès la cage thoracique.
En dessous du diaphragme. Donc au niveau de l'estomac. Là, vous voyez.
5, 6, 7.
Ah, c'est beaucoup plus. Et ça descend, regardez. Donc tout ce qui est ovalaire, c'est des boulettes de cocaïne. Elle est remplie. J'ai d'autres clichés concernant un jeune homme de 19 ans que j'ai vu pareil le mois dernier. Et là, pareil, vous voyez hein, le nombre de boulettes de cocaïne, il est rempli.
Et c'est improbable, on ne voit même plus les organes, en fait.
Ah bah oui, 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 on ne voit que ça. L'emballage est sophistiqué. Il peut y avoir donc un emballage de latex, préservatif, gants, qui est beaucoup plus dangereux que, par exemple, l'emballage qui est utilisé actuellement, qui est du ruban adhésif. Et tout dépend aussi de la consistance de la cocaïne qui est mise à l'intérieur de cet emballage. Je m'explique, ça peut être sous forme de poudre, mais peu compacte. Et là, c'est hyper dangereux. Quand c'est de la poudre, mais qui est bien compactée, ou c'est de la pâte dure, là, il y a beaucoup moins de risques de rupture.
C'est extrêmement risqué d'ingérer ces boulettes de cocaïne.
Bien sûr. Trois complications sont les plus importantes. C'est l'intoxication aiguë par rupture de boulettes. C'est-à-dire que quand on ingère entre 500 et 800 grammes, ce qui fait entre 50 et 100 boulettes. Chaque boulette, elle mesure de 2 à 5 cm de long et pèse entre 8 et 15 grammes. Quand il y a une rupture, 1,2 grammes provoque le décès. Avec un dixième d'une seule boulette, on peut mourir, en sachant que les mules peuvent transporter jusqu'à 100 boulettes. En dehors de l'intoxication, donc, il y a l'occlusion intestinale et il peut y avoir aussi la péritonite, la perforation intestinale qui peut entraîner le décès.
Ce que vous nous dites, c'est que même si aujourd'hui ces ovules de cocaïne sont d'ailleurs de plus en plus protégées, avec un risque moindre finalement qu'elles se rompent à l'intérieur de l'organisme, il y a tout un tas de complications annexes qui sont tout aussi graves, même si les boulettes de cocaïne en elles-mêmes ne se sont pas rompues.
Et s'il y a une seule qui se rompt,
c'est la mort.
C'est la mort. Si on ne fait rien, et même si on intervient, il y a beaucoup de, malheureusement, beaucoup de chances que la personne décède avant d'avoir pu intervenir. Voilà, donc les deux cas datent du mois d'octobre. C'est tout récent. Le mois d'octobre, il y a eu 11 ou 12 arrestations confirmées de bouletteux. Alors que début d'année, on tournait entre 3, 5, 6, peut-être maximum par mois. Et on a constaté ces derniers temps qu'on a des personnes âgées, hein, donc âgées, plus de 60 ans. J'ai déjà eu le cas d'une mère avec sa fille. Toutes les deux avaient ingéré des boulettes. Des personnes handicapées, donc qui arrivent avec un fauteuil roulant, ayant ingéré des boulettes, des personnes polypathologiques avec plein de pathologies cardiaques, le diabète, la tension, et qui ont ingéré, ça veut dire que maintenant tout le monde est tenté malheureusement, et qu'on essaye de cibler la population qui est dans le besoin pour essayer de leur faire miroiter ou de leur faire croire qu'ils allaient pouvoir passer tranquillement la frontière pour aller en métropole.
D'après le docteur Amiche, le dernier décès après ingestion de cocaïne en Guyane remonte à avril dernier. Un jeune homme de 19 ans a fait un malaise à son domicile. L'autopsie a révélé qu'il avait ingéré 85 boulettes de cocaïne.
Allez, bonne continuation. Et voilà, n'hésitez pas.
Il y a 3 ans, le gouvernement a signé un protocole interministériel de lutte contre le phénomène des mules. Parmi les principales mesures, il y a la création de nouvelles chambres d'hôpital au centre hospitalier de Cayenne pour prendre en charge les passeurs qui ont ingéré de la drogue. Les travaux sont toujours en cours. Il y a aussi le renforcement des contrôles de gendarmerie à la frontière avec le Suriname et des contrôles douaniers à l'aéroport de Cayenne. Il y a enfin, je cite, une politique pénale de fermeté. À ce propos, Marie Monnier et Laurent Macchetti ont rendez-vous avec Samuel Finiels, le procureur de Cayenne.
Parloir.
On a eu, sur le premier semestre 2021, on a eu 241 passeurs de cocaïne qui ont été interceptés pour, je vous dirais, un peu plus de 627 kg de cocaïne qui ont été saisis. Hein, donc c'est des quantités importantes. C'est un nombre de passeurs de cocaïne qui lui aussi est important, puisque au 1er juillet, on atteignait quasiment les chiffres totaux pour l'année 2020. Hein. Sur une année, ça fait 500 passeurs de cocaïne qui sont interpellés. Ça devient un contentieux, qui est un contentieux de masse. Les samedis, les dimanche, les jours fériés, vous avez des personnes qui sont déférées au tribunal judiciaire de Cayenne, en plus de celles qui ont pu commettre des délits de droit commun et qui sont jugées pour avoir transporté de la cocaïne et qui sont condamnés. Donc c'est une charge importante pour le tribunal judiciaire de Cayenne et on n'est pas habitué à la massification de contentieux qui sont aussi sévèrement réprimés que le trafic de stupéfiants, puisque le trafic de stupéfiants, c'est parmi les délits qui sont les plus sévèrement réprimés par le code pénal, puisque les personnes qui passent des produits stupéfiants et de la cocaïne encourent jusqu'à 10 années d'emprisonnement, encourent des interdictions de séjour qui sont lourdes dans certaines régions, la Guyane, sur les aéroports, l'aéroport Félix Éboué, sur l'aéroport d'Orly, encourent la confiscation de l'ensemble de leur patrimoine. Donc c'est aussi des peines qui peuvent avoir des incidences financières, qui sont des incidences financières extrêmement lourdes. Donc si vous voulez, pour nous, l'enjeu, c'est à la fois de prendre toute une série de mesures qui empêchent les passeurs de cocaïne de prendre l'avion, plusieurs centaines d'arrêtés de refoulement qui sont pris tous les ans. On a notamment mis en place des procédures simplifiées, des procédures aménagées avec la police aux frontières, avec les services des douanes. On a à peu près 25% maintenant des procédures qui sont faites en procédures simplifiées, permettent d'éviter toute embolisation de la chaîne pénale. Ces procédures simplifiées, en fait, elles se traitent sans garde à vue, sous le régime de l'audition libre, avec une remise des produits stupéfiants qui est faite de manière quasiment volontaire, en fait, par la personne, qui est suivie aussi d'une perquisition des bagages. Vous avez une date d'audience qui est notifiée en plaidé coupable à peu près 3 semaines, 4 semaines. Alors, ça peut être des peines qui sont des peines d'emprisonnement avec sursis simple, c'est souvent des peines de travail d'intérêt général qui sont proposées, avec des peines aussi, bien évidemment, d'interdiction de séjour à l'aéroport, puisque ça aussi, ça fait partie des mesures dissuasives. Soit sur le département de la Guyane s'ils ne sont pas originaires de la Guyane, soit sur l'aéroport Félix Éboué s'ils sont domiciliés sur le territoire guyanais. Quelque part, vous savez, il faut essayer, résister à ne pas tomber dans le piège qui nous est tendu. Et ce piège qui nous est tendu, c'est le piège de l'embolisation. Et donc on a pu réussir à sortir de ce piège de l'embolisation grâce à toutes ces mesures qui ont été prises, ça c'est le premier piège. Et puis le deuxième piège qui nous est tendu, c'est celui, je dirais, d'être complètement focalisé sur les passeurs de cocaïne. Et puis pendant le temps qu'on a des passeurs de cocaïne et qu'on traite des passeurs de cocaïne, c'est peut-être de pas voir le véhicule qui va partir dans un conteneur au port et qui va être chargé de cocaïne. Et donc il faut qu'on soit sur tous les terrains, sur toutes les voies de contournement pour lutter efficacement contre ce trafic de stupéfiants.
L'un de nos interlocuteurs nous disait, on a l'impression que on arrête les voyageurs, les petites mains de ce trafic, et finalement les boss, les patrons, eux restent impunis.
Alors il y a une image qui est une image, je dirais, un petit peu déformée de la situation, puisqu'en fait toute la France est impactée par le phénomène des mules. Donc vous avez des juges d'instruction qui travaillent sur le territoire français avec les services de police de Guyane sur les réseaux. Tout comme on a des juges d'instruction en Guyane qui travaillent sur les réseaux. Donc il y a un certain nombre d'interpellations de personnes qui sont plus haut placées dans la hiérarchie des passeurs de cocaïne qui sont faites, mais qui sont faites sur commission rogatoire du juge d'instruction de métropole avec ces personnes qui sont jugées sur le territoire métropolitain et qui ne sont pas jugées en Guyane. Donc si vous voulez, il y a un effet un petit peu déformation entre ce qu'on peut juger en Guyane et puis ce qui est jugé sur l'ensemble du territoire national. Donc il y a beaucoup d'affaires qui ne concernent pas que des passeurs de cocaïne, mais qui concernent les commanditaires qui sont jugés sur le reste du territoire national. Il n'en demeure pas moins que, je dirais, on a ces difficultés qui sont les difficultés frontalières. C'est la question que se pose le juge d'instruction, qu'il soit à Rennes, qu'il soit à Fort-de-France, qu'il soit à Cayenne ou qu'il soit dans n'importe quelle autre ville de métropole, c'est de savoir comment est-ce que je vais faire pour aller appréhender ceux qui sont situés derrière la frontière avec le Suriname, voire même ceux qui sont situés plus loin sur le territoire colombien ou sur d'autres pays qui sont les pays producteurs de cocaïne. Ça, c'est une question qu'on se pose au quotidien. Et je vous cache pas qu'avec le Suriname, on a signé une convention d'entraide judiciaire qui n'a pas encore été ratifiée. On attend avec impatience la ratification de cette convention d'entraide judiciaire. C'est vrai qu'on éprouve un certain nombre de difficultés, je dirais, pour que notre action ait un prolongement par-delà la frontière avec le Suriname.
À l'entrée de la ville de Cayenne, à quelques pas du marché municipal, au bord d'une crique, d'un petit cours d'eau, il y a un quartier qu'on appelle Village Chinois. C'est un quartier populaire, avec des logements sociaux, pas très hauts, assez récents, d'autres plus anciens, certaines façades typiques de la période coloniale en Guyane qui n'ont pas été repeintes depuis bien longtemps. Et puis, quelques consommateurs de crack aussi, affalés sur le bitume ou regroupés plus à l'ombre, et des enfants aussi qui jouent devant les résidences grillagées. Bonjour. Le soir, ce quartier devient le terrain de jeu des dealers.
3, 4, 5, Je m'appelle Nel Lama, j'ai 42 ans, je suis président de l'association des Frères de la Crique. Je suis aussi semi-professionnel en MMA, donc champion de l'état d'Amapá au Brésil. Et professionnellement, je suis directeur adjoint aux affaires culturelles de la ville de Cayenne.
Les Frères de la Crique, c'est une association qui a une dizaine d'années maintenant, qui est née au cœur du quartier du village chinois à Cayenne, ou surnommé Chicago aussi.
On nous appelle Chicago parce que traditionnellement, nous sommes le quartier des plaisirs. Donc drogue, prostitution, divertissement. On a ce petit statut d'être le premier ghetto de Guyane.
Justement, vous essayez depuis une dizaine d'années maintenant de changer cette image en essayant aussi de venir en aide à ces jeunes, parfois tentés ou qui font d'ailleurs partie intégrante de ce trafic. Qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes ?
Mon rôle de président des Frères de la Crique, c'est de fabriquer du Guyane. Et vous savez, ici, on est une petite Guyane. C'est-à-dire que vous allez retrouver toutes les origines de Guyane dans ce quartier. Donc, surinamaise, brésilienne. À partir du moment où tout le monde se sent un peu du même bateau, on peut commencer à travailler. Travailler sur les questions de drogue, de précarité, de prostitution. Là, ce sont des enfants que j'ai depuis qu'ils ont 5-6 ans. Avant, je leur faisais des petites animations dans le quartier. Maintenant, je dois leur trouver du travail, par exemple. S'en sortir par déjà la volonté d'ambition. Parce que c'est pas moi qui vais décider qu'ils veulent faire tel ou tel boulot, tel ou tel sport. C'est pas... Mais il faut qu'ils en aient la volonté, donc j'essaie de leur inculquer cet état d'esprit. C'est pour ça que lorsque je les entraîne en boxe, vous avez vu sur les murs, il y a trois cercles. Il y a l'état d'esprit, la motivation et la méthode. L'état d'esprit, c'est comment est-ce qu'ils travaillent leur mental. La motivation, c'est comment ils travaillent leur cœur, en gros, ce qui va les motiver à avancer, à se relever. Et la méthode, bon, ça peut être... C'est de la boxe aujourd'hui, mais demain matin, ça peut être un métier dans le numérique. Enfin, je sais pas, ça change. Mais j'essaie d'abord de façonner leur esprit d'abord. Tout l'objectif dans notre groupe, c'est de leur inculquer ce goût de regarder un petit peu plus loin, en fait. Et qu'effectivement, s'ils font telle chose-là, peut-être qu'ils obtiennent ça plus rapidement. Et encore, vu les risques, c'est pas toujours sûr. Mais que ça n'en vaut pas le coup. Ils sont pas là pour montrer qu'ils sont les plus bad ou les plus machins. Ils sont là pour réussir leur vie. Moi, mon rêve, c'est que dans 10 ans, il y en a un qui vient me voir et qui dit « Écoute, Nel, je te présente ma femme, mes enfants, regarde mon travail, ma voiture, ma maison. Merci, mon frère. » C'est tout.
Non, tu me frappes pas, là. Mais tu prends quoi dessus ?
Naël Lama a accompagné des dizaines de jeunes depuis la création de son association. L'un d'entre eux s'appelle Thierry. Thierry a 21 ans et aujourd'hui, grâce aux Frères de la Crique, il a un emploi, il est professeur de boxe. C'est dans ce hall d'immeuble qu'ont lieu les entraînements plusieurs fois par semaine. La boxe, à quoi ça peut servir dans des quartiers comme le vôtre ou des quartiers où les jeunes sont parfois livrés à eux-mêmes, parfois tentés de tomber dans le deal, de tomber dans le trafic de cocaïne, entre autres. À quoi ça peut servir ?
Au moins comme ça, quand il y a un entraînement... Parce qu'en général, on a des entraînements du lundi au vendredi. Donc, qui fait que du lundi au vendredi, tu fais qu'il y a entraînement. Donc, le soir, tu vas pas traîner dans la rue, tu viens t'entraîner. Et puis, quand tu as fini l'entraînement, tu es fatigué, tu rentres chez toi, tu manges, tu te laves, tu dors. Et même après, quand tu commences à faire de la boxe et que tu commences à aimer, tu es plus trop sans le deal, tu viens plus t'entraîner, faire de la compétition, ou même pour garder la forme. Donc, après, tu penses plus trop à ça. C'est un choix.
Vous, quel choix vous avez fait ?
Non, moi ça va. Même si j'ai eu un peu de galère dans ma vie. Bon, pas un peu, mais bon. J'ai pas eu besoin de faire ça. Nel m'a beaucoup aidé. Il a créé l'association au début. Et puis après, il nous a promis des contrats. Donc, il nous a vraiment aidé.
Oui, Thierry, pour moi, c'est une vraie fierté parce que il a aussi été parti vers des bêtises et il a pris conscience. Mais il en a pris conscience d'abord avec une première valeur qui est le respect. Tu vois, le petit que j'entraîne tout à l'heure, Angel, lui, je sais déjà qu'il est presque déjà sauvé parce qu'il est déjà conscient de la valeur respect. Il est déjà focalisé sur réussir quelque chose. Donc, je sais déjà que ça va aller pour lui. Enfin, j'espère en tout cas. Mais il y en a d'autres, c'est pas le cas. Mais pour prendre l'exemple de Thierry, c'était pas forcément bien parti. Et là, il est sur un chemin où ça va mieux, même s'il a besoin de grandir, parce que ça reste un gamin. Mais ça avance.
Ça fait partie des fameuses petites victoires sur le chemin.
Tout à fait, tout à fait. Là, il a eu son premier salaire ce mois-ci. Donc, on a fait une petite cérémonie. Je lui ai demandé de ne pas tout dépenser en une fois, n'est-ce pas? De garder un petit pourcentage chaque mois. Non, c'est bon, c'est un parcours initiatique.
Comment vous dire, c'est un peu... C'est où tu passes, où on te tient. T'as deux options. Et moi, je me suis toujours dit, j'ai pas envie qu'un jour je rentre en prison pour avoir d'être débile comme ça. Donc, j'ai attendu, j'ai été patient et puis voilà. J'ai pas besoin de faire ça.
En Guyane, passeur de drogue et vie brisée, c'était un reportage de Marie Monnier et Laurent Maghetti, déjà disponible à la réécoute sur franceinter.fr. Jérôme Chélius a réalisé cette émission. Mixage, Régis Nicolas. We'll be right back.